France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. La perpétuité pour Frédéric Péchier, l'ex-anesthésiste de Besançon, reconnu coupable ce matin de tous les empoisonnements dont il était accusé, 30 dont 12 mortels, il fait appel. Nous sommes sur place dans un instant et nous donnons la parole à l'une des proches de victimes. Delphine Ziegler a perdu sa mère, empoisonnée il y a 17 ans. À suivre encore, nouveau rebondissement dans le chantier de l'autoroute A69, le parquet de Toulouse demande sa suspension et les agriculteurs européens qui manifestent à Bruxelles en plein sommet. Sous pression, Emmanuel Macron refuse de valider l'accord Mercosur.
Nous considérons que le compte n'y est pas et que cet accord ne peut pas être signé. Nous sommes pour échanger, mais nous ne pouvons pas accepter de sacrifier la cohérence de notre agriculture, de notre alimentation sur des accords qui ne sont pas encore finalisés.
Et nous serons à Bruxelles dans les prochaines minutes. 42% des plaintes pour violence conjugale classées sans suite entre 2018 et 2023. On va vous détailler cette enquête du ministère de l'Intérieur. La Fédération française de football qui réglemente le jeu de tête chez les jeunes pour limiter les commotions. Et puis l'histoire de cette fausse vidéo qui annonçait un coup d'État en France dénoncé par le président de la République. Bonjour Clémentine Sabrier.
Bonjour.
Elle était l'œuvre, cette vidéo, d'un internaute du Burkina.
Oui, un adolescent de 17 ans et derrière cette vidéo, aucune intention de déstabiliser mais plutôt une volonté de se faire connaître.
A tout de suite pour vos précisions. À partir de 13h30, les secrets des frontières françaises. Savez-vous que certaines sont encore contestées, qu'elles bougent et que plusieurs de nos communes et départements sont en fait divisés en plusieurs morceaux. Les auteurs du livre Frontières bizarres de la France sont nos invités. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h50, c'est la France. Marilus Ribaud du journal Sud-Ouest va tenter de vous réconcilier avec le chou-fleur. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson avec l'humoriste Marion Mésadorian. Elle parle d'exil à Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Il n'avait jamais passé la moindre minute en détention. Frédéric Péchier a été incarcéré ce matin après l'énoncé du verdict par la cour d'assises du Doubs. L'ex-anesthésiste est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Reconnu coupable des 30 empoisonnements de patients, dont 12 mortels, dont il était accusé des faits commis entre 2008 et 2017 dans deux cliniques privées de Besançon. Bonjour Jean-Philippe Degnaud.
Bonjour Jérôme.
Vous avez suivi ce procès pour Inter. Jean-Philippe, c'est un verdict auquel on pouvait s'attendre au vu de ce procès.
Effectivement, d'ailleurs, il n'y a pas eu de vive réaction quand à 30 reprises, la présidente de la cour d'assises a dit oui aux 30 questions qui rendent donc Frédéric Péchier coupable d'empoisonnement en série, lui, à la barre, face à la cour, en caisse, tandis que les parties civiles affichent silencieusement un visage de soulagement. Olivier Py, le fils de Christian, décédé au bloc en 2012.
On n'est pas dingue. On avait bien compris qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond, en tout cas pour notre papa, mais pour tous les autres. Là, on a enfin la vérité. Voilà, c'est enfin une justice pour toutes les familles, quoi.
Et aussi pour les soignants des cliniques de Besançon, eux aussi plongés dans les souffrances de n'avoir pas compris qu'un de leurs collègues tuait les patients. Le professeur Pignard est soulagé.
Un soulagement et alors certainement pas une satisfaction parce que on ne peut pas se réjouir d'une peine longue, même si effectivement, à côté de ça, on est persuadé qu'il la mérite.
Et pour Frédéric Péchier, ce verdict n'est pas une surprise, confie son avocat maître Randall Schwerdorfer.
Il n'a manifesté aucune émotion particulière, il s'y attendait. Il s'attendait aussi à l'acquittement, tout était possible. Et il reste combatif sur l'idée de dire maintenant il faut aller en appel parce que je suis innocent et je veux naturellement être reconnu innocent.
Et d'ici ce procès en appel, dans un délai d'un an, Frédéric Péchier va déposer une demande de mise en liberté et préparer cette nouvelle audience marathon avec une défense plus incisive, promet son avocat.
Merci Jean-Philippe Degnaud en direct avec les moyens techniques de Martin Troadec. Bonjour Delphine Ziegler.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous depuis le palais de justice de Besançon. Vous y avez écouté l'énoncé du verdict ce matin après avoir suivi attentivement les 3 mois et demi de procès. Frédéric Péchier a donc été reconnu coupable ce matin de 12 empoisonnements mortels, dont celui de votre mère, Suzanne, qui est morte en octobre 2008. Elle était entrée en bonne santé à la clinique. Elle devait se faire opérer d'une hanche. Comment est-ce que vous avez accueilli ce verdict ce matin, 17 ans après la mort de votre mère ?
Mais comme l'a dit le docteur Pignard, c'est un soulagement. Et malgré tout, on ne peut jamais se réjouir de quelqu'un qui part en perpétuité. Mais de notre côté, on a la perpétuité des larmes et de la souffrance. Donc je pense que ce procès aide un petit peu à réparer tout ce qu'on a subi pendant toutes ces années et essayer de passer à autre chose. Voilà, de pas être dans la haine, mais de passer à autre chose.
Malgré l'appel dont a déjà parlé Frédéric Péchier et son avocat, oui. Il y aura un second procès.
Oui, ce sera encore une autre épreuve, mais on a marqué un temps d'avance et on a pris de l'assurance. Parce qu'on est, enfin, moi, je suis rentrée assez tremblante dans ce procès. Je savais pas ce que c'était la justice. J'avais jamais vu quelque chose comme ça. Donc, ça m'a beaucoup, beaucoup émue d'entendre toutes ces voix parler de tous bords, du bord des soignants, du bord des survivants. Et ça, c'était très important parce que on a compris ce que c'était de se réveiller d'un arrêt du cœur, de subir tout ce qu'ils ont subi comme soins. C'est la guerre, comme disait le docteur Pignard. C'est des soins très, très violents. Et on n'en sort pas indemne, plus les jours de coma qui abîment forcément le corps. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui survit, d'avoir une assurance simplement médicale devient compliqué. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de mal fait sur les personnes qui survivent encore et qui se sentent en plus coupables d'être survivantes par rapport à nous qui avons perdu des proches.
Vous avez dit à l'audience, Delphine Ziegler, c'est notre affaire à tous, cette affaire. Pas juste nous, les victimes, c'est celle de tous les Franc-Comtois.
Oui, parce que ça tombait au hasard sur des personnes. Le docteur Péchier, Frédéric Péchier, ça lui était égal sur quel patient ça tombait. Son but, c'était plutôt de nuire à ses collègues. Donc, ça pouvait être n'importe qui allait se faire opérer à la clinique de Saint-Vincent et pour des opérations très bénignes. Ma mère est décédée à l'induction. Elle n'a pas été touchée par son chirurgien. Donc c'était en plus très anormal et très inexplicable la façon dont beaucoup de ces patients sont décédés. Voilà, donc sortir de ce mystère-là, parce que là on a compris pourquoi ça s'est passé comme ça, ça nous fait du bien, ça nous éclaircit et ça nous permet de démêler tous ces nœuds qu'on avait dans notre tête et qui pendant toutes ces années, pourquoi c'est arrivé comme ça, qu'est-ce qui a pu produire ça, il n'y avait pas de raison qu'elle s'en aille pour une opération des hanches, et il y a très 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 peu d'accidents d'anesthésie.
Vous avez donc, d'elle aussi, Delphine Ziegler, vous avez tenu pendant l'audience à projeter une photo de votre famille, une photo avec votre mère et puis sa famille autour d'elle.
Oui, je fais partie d'une famille nombreuse et puis ma mère était veuve à 35 ans, on était 7 enfants, donc elle était un pilier autour de nous, on adorait notre maman et elle a réussi à nous élever malgré l'adversité, donc la voir partir comme ça sans explication, ça a été très très dur pour nous, c'était un premier choc. On a fini par l'accepter quand on a appris en 2017 que c'était arrivé, c'est un empoisonnement, ça a été un deuxième choc. Donc voilà, je crois que ce Noël va être très particulier parce qu'il va se passer dans la maison où on allait passer nos Noëls, chez elle. Cette maison a été reprise par un de mes frères, donc ça va être vraiment un Noël très très important autour d'elle, autour de son souvenir. Voilà.
Merci Delphine Ziegler de l'avoir évoqué, d'avoir été en direct avec nous dans ce 13-14. Aujourd'hui, après donc la condamnation ce matin de l'ex-anesthésiste Frédéric Péchier, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. C'est une information que nous vous avons révélée fin novembre. Le chantier de l'autoroute A69 qui doit relier Toulouse à Castres s'est étendu sans autorisation. Le dossier d'autorisation environnementale définissait au départ un périmètre de 430 hectares. En fait, les travaux s'étendent sur 40 hectares de plus, soit l'équivalent d'une cinquantaine de terrains de football. Les opposants avaient donc déposé une plainte pénale et ce matin, le procureur de Toulouse annonce qu'il demande la suspension des travaux. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Et le chantier pourrait être suspendu dès demain.
Ah, ce sera tout l'enjeu de l'audience qui se tiendra demain à 10h à Toulouse devant un juge des libertés de la détention. C'est un référé pénal avec décision sous 48 heures intentée ce matin directement par le procureur de Toulouse, David Charmas, pour, je cite, « au regard de la gravité des atteintes à l'environnement relevées, il soit mis fin aux agissements incriminés ». Et oui, l'enjeu est donc la suspension des travaux sur tous les terrains où des infractions ont été relevées ces derniers jours par les gendarmes de la section de recherche et ceux de l'Office français de la biodiversité. Et là, les constats biométriques réalisés par hélicoptère sont accablants et viennent confirmer les révélations de France Inter, de Rémi Brancato, le 27 novembre dernier, ainsi que l'agence de vérification de Radio France. Le collectif d'opposants à l'autoroute A69, vous l'avez dit, avait avait cartographié plusieurs dizaines de parcelles litigieuses. Nous avions vérifié à partir d'images satellites et l'usage d'un drone que 90% des sites repérés étaient en dehors des autorisations initiales de la préfecture. Plus de 40 hectares concernés effectivement, des ronds-points aménagés, des sols bétonnés, des haies arrachées sans prévenir qui que ce soit. Une procédure pénale qui vient s'ajouter à celle menée en parallèle sur le fond devant la cour d'appel administrative sur les autorisations accordées par l'État en 2023. Décision attendue le 30 décembre prochain.
Emmanuel Leclerc, le Sud-Ouest, nous y étions, qui est toujours l'épicentre du mouvement des agriculteurs. 5 autoroutes y sont perturbées ou fermées encore aujourd'hui, selon l'opérateur Vinci, même si des actions de blocage de routes ont lieu un peu partout en France depuis ce matin. 2 revendications, l'arrêt de l'abattage systématique des troupeaux atteints de dermatose nodulaire, 2 syndicats le demandent. Et puis il y a aussi l'opposition à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Amérique du Sud. Là, les syndicats sont unanimes. Et c'est pour protester notamment contre le Mercosur que plusieurs milliers d'agriculteurs sont en ce moment réunis à Bruxelles, en plein sommet européen. Bonjour Mariam El Kurdi.
Bonjour.
Mariam, vous êtes sur place dans la manifestation. Il n'y a pas que des agriculteurs français autour de vous d'ailleurs.
Oui, car ici on sent bien que le combat est européen. On voit et on entend des agriculteurs allemands, italiens, irlandais, portugais et bien sûr de nombreux Français qui sont arrivés soit en tracteur, soit en minibus des quatre coins du pays. Ils donnent de la voix en plein cœur de Bruxelles avec notamment des prises de parole à la tribune.
Agricultrices, agriculteurs, dans les fermes européennes, les trésoreries sont à sec parce que le monde agricole est en souffrance profonde et que, manifestement, cela n'affole plus personne à Bruxelles.
Dans le cortège agricole, des responsables syndicaux comme Hervé Lapi, secrétaire général de la FNSEA et agriculteur dans le Grand Est, il espère faire pression pour empêcher la signature du Mercosur.
Aujourd'hui, il y a les 27 chefs d'État qui sont réunis à Bruxelles pendant 2 jours. Et en fait, l'objectif, c'est en cette fin d'année de rappeler aux 27 chefs d'État que l'agriculture est un pilier fondamental de la construction européenne.
Pour Marie-Hélène Moreau, exploitante en polyculture élevage dans l'Aisne, c'est bien à Bruxelles qu'il fallait se mobiliser aujourd'hui.
L'Europe veut nous imposer une taxe carbone sur nos engrais et cette taxe carbone va nous faire augmenter nos coûts de revient sur nos fermes. Mais on est là aussi pour nos aides PAC parce qu'il faut bien savoir que les aides PAC ont été créées pour baisser le prix des produits agricoles pour que le consommateur puisse s'alimenter à moindre coût. Donc si on nous baisse nos aides PAC, est-ce que nous on arrivera encore à se nourrir ?
L'enveloppe des aides de la politique agricole commune pourrait en effet baisser de 20% à partir de 2028, Jérôme.
Mariam El Kurdi en direct avec Geoffrey Marianne. Alors cet appel va-t-il être entendu? La signature de l'accord va-t-elle intervenir dès ce week-end? Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Fabien, vous nous direz dans un instant où en sont les négociations. Allons d'abord voir l'homme qui s'impatiente de l'autre côté de l'Atlantique, le président brésilien Lula, qui a rendez-vous ce week-end avec la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et qui lui met la pression. Jean-Mathieu Albertini est au Brésil.
Entouré de ses ministres lors d'un événement retransmis en direct, le chef d'État brésilien ne mâche pas ses mots. Lui qui a décalé la réunion du Mercosur pour permettre aux Européens de se décider n'acceptera pas un nouveau report.
Je leur ai déjà dit, si on ne fait pas ça maintenant, le Brésil ne signera pas cet accord tant que je serai président. C'est bien qu'ils le sachent, ça fait 26 ans qu'on attend cet accord. Et c'est un accord qui leur est plus favorable à eux qu'à nous. Mais Macron ne veut pas le faire à cause de ses agriculteurs, l'Italie ne veut pas le faire, je ne sais même pas pourquoi.
Pourtant, le sujet lui tient à cœur, ce serait une victoire importante à la veille d'une année électorale, ainsi qu'un message envoyé à Donald Trump, ennemi déclaré du multilatéralisme. Lula laisse une porte ouverte aux Européens, mais trace une ligne rouge.
Je me rends au sommet avec l'espoir qu'ils disent oui à l'accord. Mais s'ils disent non, on sera dorénavant très dur envers eux. On a déjà cédé tout ce que l'on pouvait en termes diplomatiques.
Avec cette prise de parole, Lula tente de se dédouaner de tout échec et rejette la faute sur les tergiversations européennes.
Justement, les discussions européennes, Fabien Cazot, vous êtes à Bruxelles. Une signature dans les prochains jours paraît tout de même compromise.
À ce stade, oui, hein, car la France, rejointe hier par l'Italie, s'y oppose en l'état et avec la Pologne et la Hongrie, ces 4 pays peuvent à eux seuls constituer une minorité de blocage pour s'opposer à l'accord. L'Allemagne compte au contraire exercer une pression maximale sur eux pour les faire changer d'avis. Emmanuel Macron a tenu à s'adresser directement aux agriculteurs ce matin en arrivant au Conseil européen.
Je veux ici dire à nos agriculteurs qui manifestent la clarté de la position de la France depuis le début.
sur le Mercosur, nous considérons que le compte n'y est pas et que cet accord ne peut pas être signé. Nous sommes pour échanger. La France est d'ailleurs une grande puissance agricole et agroalimentaire qui exporte. Mais nous ne pouvons pas accepter de sacrifier la cohérence de notre agriculture, de notre alimentation, la sécurité alimentaire de nos compatriotes sur des accords qui ne sont pas encore finalisés. Je regarde les choses. On n'est pas prêt. Le compte n'y est pas.
Le compte n'y est pas, Emmanuel Macron l'a répété plusieurs fois en arrivant ce matin. Quelle réciprocité au niveau des normes, notamment sur l'utilisation de produits phytosanitaires? Quelle réalité pour les contrôles promis par la Commission à partir de janvier prochain? Se réclamant d'un bon sens un peu paysan, ce sont ces mots, le président français dit vouloir la vérité des prix.
Fabien Cazot en direct avec les moyens techniques de Laurent Macchietti, sommet auquel participe également le président ukrainien Volodymyr Zelensky, puisque l'aide financière à l'Ukraine est aussi au menu. Les 27 ne quitteront pas ce sommet sans solution financière pour l'Ukraine. A dit ce matin, Ursula von der Leyen.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Après France Télévisions, la semaine dernière, c'est au tour de Radio France de répondre aux questions de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur, je cite, la neutralité et le financement de l'audiovisuel public. Commission composée de députés de tous bords, qui a entendu hier la présidente de Radio France, Sybille Veil, et ce matin, plusieurs responsables de France Inter. Bonjour Julien Nény.
Bonjour.
Parmi les députés présents, ceux du Rassemblement National et de son allié UDR leur ont reproché une antenne trop orientée à gauche.
Oui, pendant plus de deux heures, ça a été la question centrale de ces auditions. Pour la poser, de plein de façons différentes, vous allez l'entendre, le rapporteur Charles Laloncle du parti d'Éric Ciotti.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression que perdre un demi-million d'auditeurs est lié d'une certaine façon à un biais idéologique? Est-ce que sur France Inter, la subjectivité au fond est une forme de précaré de gauche? Est-ce que vous n'admettez pas que sur votre antenne, il y a quand même un biais de gauche?
Alors, pour lui répondre, d'abord la directrice de France Inter, Adèle Vendrette.
Toute accusation idéologique est absolument contestable et ne repose sur aucun fait. Il suffit pour cela, encore une fois, d'écouter l'antenne.
Puis le directeur de l'information, Philippe Corbet.
Quel est le parti qui a été le plus invité dans la matinale de France Inter depuis la rentrée? C'est le Rassemblement National.
Et le même de lire un courrier récent de l'ARCOM, le gendarme de l'audiovisuel, adressé à France Inter.
L'ARCOM constate la sous-exposition des écologistes, du Parti communiste français, du Parti socialiste et de l'Union des droites pour la République.
Mais le rapporteur de cette commission ne s'est pas arrêté là. Il a aussi exhumé des tweets de 2022 d'un cadre de France Inter, ex-élu socialiste, qui s'en prend au RN. Tout à l'heure, ce sera au tour de Thomas Legrand et Patrick Cohen d'être auditionnés, puisque le point de départ de cette commission, c'est cette vidéo volée, les montrant attablés avec deux responsables du PS et donnant le sentiment de comploter contre Rachida Dati.
La question des humoristes, Julien, a elle aussi été soulevée.
Oui, c'était même la première question ce matin sur le licenciement de Guillaume Meurice l'an dernier. Depuis, les polémiques sur les humoristes de France Inter se sont multipliées, tous accusés à nouveau de pencher à gauche, Charline Van Hunecker, François Morel ou encore Mao Drama. « Je ne sonde ni les cœurs ni les reins », répond Adèle Vendrette, qui appelle à distinguer les types d'interventions à l'antenne.
D'où l'effet d'optique qui, me semble-t-il, est délétère de zoomer sur une chronique en particulier. Nous parlons de 3 minutes sur plus de 10 000 minutes de programme par semaine. Rappelons que lorsque nous sommes dans le registre de l'humour, la tonalité est différente que lorsque nous sommes dans le registre de l'information ou de la culture.
Cette commission d'enquête de l'Assemblée doit encore interroger plusieurs dizaines de personnalités d'ici le mois de mars avant de publier son rapport qui fera, quoi qu'il arrive, couler encore beaucoup d'encre.
Intégralité des échanges que vous retrouvez sur l'application Radio France. Merci Julien Nény. Le deuxième évadé de la prison de Dijon a été repris par la police ce matin après 3 semaines de cavale, interpellé à Marseille, sa ville natale, dans les quartiers nord. Il est âgé de 19 ans, il était considéré comme dangereux. Son compagnon d'évasion, lui, avait été arrêté dès le lendemain. De nouvelles dénonciations de maltraitance dans un foyer parisien de l'aide sociale à l'enfance. Cette fois, ça se passe dans un foyer du 18e arrondissement de Paris. Alors la scène n'a pas été filmée, mais il est une nouvelle fois question d'enfants tondus. Une mère de famille assure que ses deux fils, 3 et 4 ans, ont eu les cheveux complètement rasés l'été dernier. Dès leur arrivée dans ce foyer, ils y avaient été placés provisoirement et en urgence. Elle dit vouloir déposer plainte. La mairie de Paris saisit la justice. Aurélien Tirard, c'est vous qui nous révélez cette affaire.
Nous sommes au mois de juillet. Louis et Gabriel sont placés au foyer depuis une semaine car leurs parents vivent une rupture conflictuelle. Leur maman, Lola, leur rend visite. Et là, elle ne reconnaît pas ces deux petits garçons, eux qui portent d'habitude les cheveux longs.
Je me suis dit, waouh, il s'est passé quelque chose. Je me suis aperçue qu'ils avaient eu les cheveux complètement tondus, vraiment à blanc. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un duvet de cheveux. Ce ne sont plus mes enfants, presque. Dans mon esprit, ils sortent d'un camp. Je suis restée figée.
Lola cherche immédiatement des explications.
J'ai dit, qu'avez-vous fait à mes enfants? Et là, on me dit, oui, ils ont les cheveux coupés. Je dis, ils sont tondus.
Cette maman avait bien donné son accord pour que le foyer coupe les cheveux de ses garçons parce qu'ils avaient des poux. De son côté, la fondation qui gère le foyer reconnaît seulement, je cite, que la coupe a pu être réalisée plus courte que prévu. Une explication qui ne convainc pas Lola.
Moi, je le considère comme une violence inouïe. Il n'y a pas de mots.
C'est pourquoi elle veut porter plainte.
Ma volonté est de me dire qu'un jour, les enfants poseront des questions. Et je souhaite pouvoir y répondre en disant qu'on a fait ce qu'il fallait faire pour répondre à cette humiliation.
La mairie de Paris a signalé les faits au parquet, va convoquer le directeur du foyer et rencontrer la maman dans les prochains jours.
Aurélien Tirard de nos confrères de France Info. Les femmes victimes de violences sexuelles s'en plaignent régulièrement. Leur dépôt de plainte contre un homme violent ne se conclut que trop rarement par une condamnation. Et bien le ministère de l'Intérieur a voulu en avoir le cœur net et a établi des statistiques. C'est une étude inédite sur 800 000 victimes de violences conjugales entre 2018 et 2023. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
Un peu plus d'une plainte sur deux donne lieu à une suite judiciaire. Ça ne veut pas dire un procès, mais au moins à une suite judiciaire.
Oui, 55% des victimes de violences conjugales ont vu leur affaire donner lieu à des poursuites, selon cette étude. Alors, dans un peu moins d'un quart des cas, il s'agit en réalité d'alternatives aux poursuites pour l'auteur des faits, c'est-à-dire d'un rappel à la loi, de mesures de réparation ou l'obligation de suivre un stage de sensibilisation, par exemple. Mais, pour près d'une victime sur trois, sa plainte débouche sur un procès, et même, très majoritairement, une condamnation, puisque la culpabilité de l'agresseur est reconnue dans 95% des audiences correctionnelles. Voilà pour le verre à moitié plein, si vous me permettez l'expression. Mais ce que cette enquête révèle aussi, c'est que 42% des plaintes ont été classées sans suite, au motif d'une affaire non poursuivable ou d'une inopportunité des poursuites. Comprenez, l'auteur n'a pas pu être identifié ou les faits ne constituent pas une infraction pénale, par exemple. Tout ceci réglé en moins de 6 mois dans les 3/4 des dossiers, toujours selon cette étude, sachant que ce chiffre inclut également les généralement rapides classements sans suite.
Charlotte Piret pour ses précisions. C'est le principal groupe de distribution outre-mer, le groupe Bernard Ayot, régulièrement accusé de pratiquer des marges trop larges. Le parquet national financier vient d'ouvrir le concernant une information judiciaire pour escroquerie en bande organisée, abus de position dominante et entente. Cette enquête vise notamment le marché automobile outre-mer. Emmanuel Macron l'avait lui-même dénoncé, micro en main et en public, c'était mardi à Marseille. Et c'était pour le chef de l'État l'exemple même de la désinformation. Une fausse vidéo sur laquelle on voyait une fausse journaliste annoncer micro en main la chute du président français et un coup d'État mené par l'armée dans notre pays. Cette vidéo a été vue sur Facebook la semaine dernière et depuis près de 13 millions de fois. Eh bien, on sait qui l'a fabriquée et avec l'aide de l'intelligence artificielle, Clémentine Sabrier, ce n'est pas du tout un réseau ni même un État, c'est un simple internaute en Afrique.
Oui, c'est un adolescent burkinabé repéré par les journalistes de Libération et du Monde. La vidéo en question est partie de sa page Facebook, suivi par près de 280 000 personnes. Vidéo supprimée hier, mais le garçon au visage juvénile en a publié une nouvelle il y a quelques heures.
Voilà les gars, on parle de moi en France. Je dis mais on parle de moi en France. Juste parce que j'ai créé une vidéo avec l'intelligence artificielle qui dit que non, il y a un coup d'État en France. Donc il y a des journalistes français qui m'ont contacté.
Il explique à Libération qu'il a retiré la vidéo pour ne pas avoir de problème juridique. En revanche, il a laissé d'autres fausses images sur la tentative de coup d'État au Bénin.
Dans la matinée, les forces armées béninoises ont annoncé avoir pris le contrôle du palais présidentiel.
Les manifestants sont massivement pour le colonel Pascal Tigré.
Les forces militaires béninoises confirment que le colonel Pascal Tigré aurait pris officiellement le pouvoir.
Ces vidéos enregistrent parfois plusieurs millions de vues, mais les plus populaires ne sont pas du tout politiques.
Pour aujourd'hui, 31 octobre 2025, il pleut des bœufs à Ouagadougou. C'est un miracle, mes frères. S'il vous plaît, partagez la vidéo.
Des bœufs qui tombent du ciel.
Des vaches qui tombent du ciel.
Des
ouais.
vaches qui tombent du ciel, oui, partout, et qui retombent sur leurs pattes, je peux vous le dire. 35 millions de vues pour cette vidéo. Le but, ce n'est pas de déstabiliser des pays. Le jeune Burkinabé veut d'abord se faire de l'argent en monétisant ses vidéos, mais aussi montrer qu'il sait faire ce qu'il sait faire avec l'IA pour vendre des formations pour créer ce genre de contenu.
S'il voulait faire parler de lui, c'est réussi. Clémentine Sabrier. On se souvient du coup de gueule du champion du monde 2018, Raphaël Varane. C'était il y a 2 mois, victime de commotion cérébrale. Durant sa carrière de défenseur, Varane préconisait tout simplement l'interdiction du jeu de tête chez les enfants de moins de 12 ans. Et bien après plusieurs mois de réflexion, la Fédération française de football vient de publier ses recommandations pour les clubs. Bonjour Nicolas Perronnet.
Bonjour Jérôme.
Vous les avez consultées. Alors le jeu de tête va être interdit pour les moins de 10 ans, autorisé mais sous conditions au-delà de cet âge. On voit que la fédération réglemente, mais elle ne va pas aussi loin que les Anglais.
Oui, l'Angleterre, mais aussi l'Écosse, hein, l'Irlande, les États-Unis, tous ces pays où le jeu de tête est aujourd'hui interdit jusqu'à 12 ans, pas la France. Donc, à partir de début janvier, en France, donner des coups de tête dans un ballon à l'entraînement, comme en match, ne sera plus possible pour les moins de 10 ans. Effectivement, à partir de 10 ans, ce sera une autre approche, explique Claude Delforge, le président de la Ligue de football amateur.
Nous, on n'interdit pas. On encadre avec des préconisations du nombre de séances de jeu de tête sur la planification. Le temps à l'intérieur d'une séance, pas toute une séance entière d'une heure, on préconise 5 minutes, 10 minutes selon les catégories.
À 15 minutes maximum par séance, donc jusqu'à 17 ans, l'interdiction Total se limite donc aux catégories U6 et U9, celle où jouer avec la tête hein, en réalité est déjà marginale aujourd'hui, mais pour la fédération, il fallait quand même marquer le coup.
On sait que le jeu de tête, c'est une arme du footballeur aujourd'hui, donc effectivement, il y a toujours le moyen de dire, pour pas que l'enfant il ait peur du ballon, on va lui faire une tête, deux têtes. Il y a vraiment ce principe de précaution et de protection qui est important pour les catégories U6 à U9.
Voilà, même si aucune étude scientifique n'établit clairement de lien entre le jeu de tête et le développement de troubles neurologiques futurs, voilà pourquoi sans doute le foot français se contente pour l'instant de suivre à la lettre les préconisations des instances internationales.
Nicolas Perronnet, ils sont dans l'immense majorité des cas gratuits, et cela participe bien sûr de leur succès. Les marchés de Noël, eh bien pour la première fois, l'un de ces marchés de Noël devient payant. Ça s'est passé à Paris, le marché de Noël de la Villette dans le 19e arrondissement a ouvert fin novembre, il était gratuit et puis il est devenu payant à certains horaires et depuis les visiteurs sont furieux. Marie Martyr aussi en s'est rendue sur place.
Juste à l'entrée du marché, des panneaux annoncent la couleur. L'entrée à partir de 17h pour les plus de 4 ans désormais, c'est 5 euros.
Bon, c'est un marché de Noël, généralement les marchés de Noël c'est pas payant. Donc.
Lucie, 19 ans, en études d'infirmière, est venue avec Alvina entre copines.
Je suis pas trop pour.
En plus, en tant qu'étudiante, c'est pas ouf. C'est que 5 euros, mais quand même.
5 euros avec une boisson incluse pour pouvoir déambuler entre les chalets. Paola est venue avec sa fille de 5 ans. Pour elle, c'est la magie de Noël qui en prend un coup.
Oui, c'est un peu curieux, ce plaisir qui est censé être disponible et gratuit pour tout le monde qui devient payant en plein milieu de la prestation. Je trouve ça dommage, surtout dans le 19e arrondissement où il y a un public qui est très mixé, qu'on leur enlève la possibilité aux enfants de pouvoir s'amuser et de profiter de la magie de Noël gratuitement. Quoi.
Une mesure prise pour éponger les coûts de l'organisation, la grande roue, la sécurité et pour réguler un peu les allées du marché. Pas forcément une mauvaise idée, estime Émilie.
Je me dis si ça peut un petit peu réduire, fluidifier un petit peu, parce que c'est vrai que quand on se promène des fois dans les marchés de Noël, il y a beaucoup de monde donc on ne peut pas voir réellement ce qu'ils proposent, etc.
Une déception des habitants que comprend le maire du 19e, François Dagneau, qui n'a pas la main sur l'organisation.
Ce qui me paraît nécessaire pour les prochaines éditions, c'est que dans le cahier des charges, il soit peut-être précisé qu'il n'est pas possible de mettre en place une tarification à l'entrée du marché de Noël.
Le marché de la Villette, qui est un des seuls en France à être payant.
Payant donc à certains horaires, 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure de ce 13-14, la météo de Céline Dacosta. Puis à partir de 13h30, nous parlons des frontières de la France. Elles sont pleines de bizarreries, frontières avec nos voisins, mais aussi frontières entre nos communes, entre nos départements. 01 45 24 7000 pour nous en parler. Si vous avez des cas chez vous, allez-y, vous pourrez interpeller nos invités. 13h45, notre feuilleton avec ces Français d'origine espagnole. Ils n'ont pas oublié leur histoire. Nous sommes dans les Pyrénées-Orientales depuis lundi. Et puis 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Marie-Luce Ribaud et Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Marie-Luce, du chou-fleur sur notre table aujourd'hui.
Oui, du chou-fleur parce qu'il faut soutenir la filière qui fait face à une crise de surproduction liée à une extrême douceur du climat. Du chou-fleur surtout parce que c'est délicieux et qu'on va même en préparer pour les fêtes.
Et avec une petite recette en prime. Et avec vous, Frédéric, une humoriste.
Marion Mesa d'Orient, qu'on peut entendre notamment dans l'émission Zoom Zoom Zen et voir en ce moment sur la scène du théâtre de la Pépinière à Paris. Et avec elle, nous parlerons de L'Exil, une chanson de Laurie Darmon qui lui rappelle le parcours de ses deux grands-mères.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Pourquoi Banque Populaire est la première banque des entreprises ?
Je suis chef d'entreprise et je passe trop de temps sur l'administratif. Heureusement, Banque Populaire propose un service accessible depuis mon espace client pour gérer factures et notes de frais très facilement. Du coup, je commence à anticiper la réforme sur la facturation électronique et je me consacre à ce qui compte vraiment, mes clients.
Apporter des solutions innovantes, c'est ça, être la première banque des entreprises. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Étude Kantar PME PMI 2025. 14 banques populaires, première banque des PME. Voir conditions générales de banque à distance et tarifaires sur banquepopulaire.fr ou dans votre agence.
France Télévisions. Ce soir, Prodige revient pour les fêtes avec Faustine Bollaert.
On ouvre en grand les portes de la 12e saison de Prodige.
Un spectacle grandiose.
Vous allez faire connaissance avec 24 jeunes virtuoses.
Inédit. Prodige, la première demi-finale, ce soir à 21h10 sur France.tv et sur France 2.
France Inter, partenaire du numéro spécial de Society, 10 enquêtes interdites avec Forbidden Stories, le réseau de journalistes qui reprennent les enquêtes de leurs confrères assassinés en faisant leur métier. Au sommaire notamment, le Guantanamo russe, les assassinats ciblés à Gaza, la désinformation pour le groupe Wagner, et à l'origine de tout ce mouvement, l'assassinat de Daphne Galizia à Malte. Un seul mot d'ordre, tuer le messager, ne tuera pas le message. Numéro spécial de Society et Forbidden Stories. 10 enquêtes interdites à lire en ce moment avec France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Le temps va rester perturbé sur le nord-ouest du pays.
Oui, des pluies un petit peu plus marquées que ce matin sur la Bretagne notamment, le Finistère, le Morbihan. Ces averses, elles vont se décaler dans la soirée vers les Pays de la Loire et comme annoncé par Météo France, ça souffle.
Ouais, c'est ça.
Le vent de secteur sud est bien présent, des rafales jusqu'à 70 km à l'heure dans les terres, sur le sud, sur l'ouest du pays, 90 km à l'heure sur le littoral et même pour le vent d'Othon et des rafales qui pourront frôler les 100 km à l'heure sur la pointe bretonne ou sur l'est des Pyrénées.
Ciel perturbé aussi sur le Languedoc-Roussillon.
Oui, là aussi, nuages, pluie beaucoup plus faible, hein, ces averses, surtout sur les Cévennes. Un ciel gris qui s'étendra progressivement aux côtes méditerranéennes, qui va également remonter vers le massif central. Et puis on a également un petit peu de pluie sur l'est de la Corse, partout ailleurs. C'est beaucoup plus calme avec un ciel lumineux, même si le soleil est parfois voilé. Les températures toujours très douces et même en hausse par rapport à hier. Une moyenne de 13 à 19 degrés du nord au sud. Ça va commencer à baisser à partir de lundi. On se dirige vers une ambiance plus hivernale pour Noël.
Et vous nous direz tout ça dès demain.
Avec plaisir.
Ici même, à la même heure. Céline Dacosta.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Elles sont au cœur de l'actualité internationale dont on vous parle tous les jours. Les guerres au Proche-Orient, la guerre en Ukraine, les guerres en Afrique, ce sont les frontières. Un désaccord sur leur tracé peut générer des tensions, voire même des conflits, parfois pour quelques kilomètres carrés. Mais ces frontières peuvent aussi prêter à rire ou à sourire, c'est ce que l'on découvre dans ce livre, Les frontières bizarres de la France. C'est aux éditions Autrement, un livre richement illustré, avec des cartes, certaines inédites et qui concernent quasiment toutes les régions, car certaines frontières traversent en fait notre pays, nos départements, nos communes. On en parle avec deux de ces auteurs qui sont avec nous aujourd'hui. Olivier Marchand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur de livres et de documentaires. La série Géozarbi, par exemple, diffusée sur Arte, est déjà consacrée à des bizarreries géographiques et historiques. C'est vous, Olivier, qui avez eu l'idée de ce livre ?
Ah oui, c'est moi. Puis j'ai emmené assez vite Jules Grandin, qui n'est pas là avec nous et qu'on salue d'ailleurs, et Clara De Alberto dans l'aventure, parce qu'on a, je pense qu'on a tous les deux des esprits, enfin tous les trois, pardon, des esprits assez facétieux. On aime bien les choses sérieuses, mais on aime bien les raconter sans trop se prendre au sérieux. Donc voilà, on avait un attelage tous les trois assez intéressant pour ce livre.
Clara De Alberto avec nous également, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cartographe, responsable de l'infographie au magazine Le Point. En quoi consiste votre travail ?
Eh bien, je visualise l'information, je traduis plein de sujets différents qui vont en effet qui peuvent passer par la cartographie mais aussi par l'infographie et je les clarifie, je les raconte autrement que par du texte.
Et on comprend parfois plus simplement en voyant une carte qu'en lisant un texte, on comprend plus facilement une situation internationale ou nationale. On va en parler ensemble avec vos appels 01 45 24 7000. Si vous souhaitez être avec nous, vous passez également via l'application Radio France. On peut penser que c'est un sujet, j'allais dire uniquement pour historiens, ce sujet des frontières, mais ce matin, à 13h31, bah, c'était il y a quelques minutes, dépêche de l'agence France Presse, la France dément vouloir renoncer à sa souveraineté sur les îles Matthew et Hunter. Et ces deux îlots se retrouvent dans l'actualité aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Olivier Marchon, que sont Matthew et Hunter, ces deux îlots du Pacifique, qui aujourd'hui ont déclenché une question au Sénat et la réaction de Marine Le Pen et de Jordan Bardella il y a quelques jours?
Alors Matthew et Hunter, c'est deux rochers, ce sont deux rochers assez insignifiants, il faut le dire, qui se trouvent au sud des îles Vanuatu et à l'est de la Nouvelle-Calédonie. Et il se trouve qu'il y a un conflit de souveraineté entre les Vanuatu et la France sur ces deux endroits. Évidemment, à la clé, c'est pas tant les rochers qui sont intéressants. Enfin, pour les Vanuatu, il y a un enjeu symbolique, parce qu'il semblerait que ce soit deux lieux religieux importants. Pour la France, c'est plus une question de zone économique exclusive, puisque vous n'êtes pas sans savoir que quand on possède des îles, ben on possède...
On peut pêcher autour, par exemple, autour, on contrôle les mers.
On peut forer autour, on peut faire plein de choses, on contrôle les mers. Voilà. Et alors, c'est une histoire assez compliquée qui implique l'histoire des Vanuatu même, qui ont été pendant longtemps les Nouvelles-Hébrides, qui étaient un condominium franco-britannique, c'est-à-dire un lieu de souveraineté partagée entre les Britanniques et les Français. C'est assez compliqué déjà en soi. Et c'est un peu flou, mais lorsque on a décolonisé l'endroit, les Français ont emporté Matthew et Hunter avec eux, et depuis, au Vanuatu, on conteste ce fait. Voilà.
Mais c'est fascinant de voir à quel point deux îlots qui peuvent paraître oubliés de tous les Français peuvent surgir dans l'actualité et devenir des questions, peut-être pas brûlantes, mais en tout cas faire l'objet de vrais débats nationaux. Le RN dit, bah là, si on cède Matthew et Hunter, on va céder une partie du patrimoine français outre-mer.
Oui, et puis je pense que ça évidemment, c'est un lien aussi avec la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui et sa
exactement,
place dans la
lien
République
direct,
française,
ouais.
Indirectement. C'est-à-dire que si on cède sur Matthew et Hunter, entre guillemets, on pourrait aussi céder sur la Nouvelle-Calédonie, voilà, donc c'est brûlant, oui, c'est brûlant.
Alain est avec nous, il nous appelle de La Rochelle. Bonjour Alain.
Bonjour.
Nous vous écoutons, vous avez une frontière bizarre en tête?
Bah, disons deux.
Ah.
La première, c'est la spécificité de l'île des Faisans, qui à ma connaissance change de nationalité tous les 6 mois.
Hein?
Tout à fait.
C'est alors, enfin, sur
le tour. On va détailler tout ça, l'île des Faisans, ok. Et la deuxième?
La deuxième, c'est une enclave espagnole dans le Béarn, je crois, qui s'appelle Livia.
Ouais.
Là qui est habitée, et les questions que ça me pose, c'est des questions d'organisation au quotidien. Avant l'an 2000, quelle monnaie utiliser? Quelle loi s'applique? Formalité administrative pour sortir de l'enclave, en fait, toutes ces questions du quotidien.
Eh oui, beaucoup de questions se posent.
Eh
merci
bien.
Alain pour cette question. Qui veut répondre? Clara, Olivier, d'abord sur l'île des Faisans, qu'est-ce que c'est que cette île?
Alors, l'île des Faisans, alors c'est intéressant parce que les deux histoires sont liées. Donc l'île des Faisans, c'est une île sur la Bidassoa, entre Irun et Hendaye.
Donc frontière franco-espagnole.
Alors elle ne change pas de nationalité tous les 6 mois, elle a les deux nationalités.
Elle est en même temps française et espagnole,
en même temps,
cette île.
C'est un condominium et elle change d'administration tous les 6 mois. Concrètement, du 1er février au 31 juillet, elle est espagnole. Du 1er août au 31 janvier, elle est gérée par les Français. Voilà. Et il y a deux vice-rois, d'ailleurs, de l'île des Faisans. C'est une histoire un peu fascinante.
Quelqu'un habite sur cette île des Faisans?
Personne.
Pas du tout.
Elle est interdite justement au public. Ceci expliquant cela, j'imagine que ça poserait trop de complications administratives.
Voilà. Clara De Alberto, la question sur l'enclave, Livia, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce que c'est que cette enclave?
Alors, Livia, c'est...
En fait, je donnerai la parole après sur la carte.
Elle a un peu lié. Voilà, on sait vraiment, moi, c'est les histoires, Clara, les cartes. Livia, c'est une enclave, effectivement, espagnole en France, catalane, même plus précisément, parce que si je commence à dire espagnol, je pense que les Catalans vont me tomber dessus, et qui date à peu près de la même époque. En 1659, on a décidé que les Pyrénées seraient la frontière entre la France et l'Espagne. Il a fallu se partager le plateau de Cerdagne. La France devait récupérer 33 villages espagnols. Or, parmi ces 33 villages, il y avait un village qui n'était pas un village, mais une ville, et les commissaires espagnols ont argué du fait que c'était une ville, et qu'elle donc ne pouvait pas faire partie de l'échange. Et depuis, cette ville de Livia est restée espagnole.
Ça pose des questions de réglementation, pour prolonger l'interrogation d'Alain?
Alors, réglementation...
Il y a du droit espagnol qui s'applique
C'est une ville espagnole à plein, enfin catalane, donc le droit espagnol s'y applique. Non, ce qui est intéressant...
Un meurtre commis dans cette enclave, c'est la police espagnole qui va enquêter.
Et ce qui est intéressant dans le cas de cette ville, c'est que pour permettre aux Espagnols de circuler librement depuis le territoire principal de l'Espagne jusqu'à Livia, on a accordé aux Espagnols une route neutre, une route française, mais neutralisée, que seuls les Espagnols pouvaient emprunter. Alors évidemment, avec Schengen, maintenant, ça n'a plus d'importance, mais pendant longtemps, ça l'a été. Et il faut savoir qu'en 1971, il y a eu un conflit là-bas, ce qu'on appelle la guerre des stops. Les Français ont voulu mettre des stops sur cette fameuse route neutre, parce qu'elle croisait une route française qui était nationale, alors que cette route neutre était départementale. Et les Espagnols ne l'ont pas supporté, ils sciaient les panneaux la nuit. D'accord. Les Français les reconstruisaient le jour.
Ouais, comme quoi, ça a duré quelques conflits violents.
Voilà, ça a duré quelques semaines comme ça. C'est remonté au plus haut niveau de l'État à l'époque et on a décidé la construction d'un échangeur routier.
Bon,
voilà.
Et les choses se sont calmées. Pour calmer les choses, il faut se mettre d'accord sur une carte, Clara De Alberto. Est-ce qu'il y a des cartes à jour pour toutes ces bizarreries ou bien est-ce que vous avez été obligé de les créer, ces cartes, à partir de données que vous avez cherchées?
Alors, ça dépend complètement. En effet, Olivier est arrivé avec plein d'histoires toutes plus passionnantes les unes que les autres. Et ensuite, nous, il a fallu qu'on, donc avec Jules Grandin, qu'on regarde comment les représenter, comment les clarifier et dans certains cas, comment les situer. Donc, selon les cas de figure, la frontière était disponible, il suffisait de la trouver, il y avait des enjeux d'échelle et de clarté, mais c'était faisable. Et dans certains cas, il a fallu un peu plus enquêter, voire même réaliser des cartes qui, a priori, n'avaient pas encore été.
Vous avez un exemple ?
Oui, absolument. Je pense à Saint-Hébert et Bernissart.
Là, on est dans le nord ?
Absolument. Ce sont donc des tunnels qui appartiennent à la France sous la Belgique et à la Belgique sous la France. Tout ça est lié à des histoires de mines et de houille.
On exploitait le charbon, c'est ça ?
Absolument.
D'accord.
Et donc pour ça, il y avait vraiment des emplacements très précis qui avaient été déterminés dans le journal officiel. Et donc il a fallu retrouver le journal officiel qui mentionnait, mais il n'y avait pas de carte qui existait de ces endroits. Donc il a fallu retrouver le journal officiel en question dans lequel ils étaient précisés. Donc c'était celui du 15 octobre 1959. Et là, il y avait les coordonnées précises de ces mines. Sauf que...
Donc c'est des mines qui partent. Il y en a une qui part de Belgique et qui se poursuit
sous la France.
Et il y en a une autre qui part de France et qui se poursuit sous la Belgique.
C'est ça. Et c'est l'endroit d'où elle part qui détermine à quel pays elle appartient. Mais en revanche, on avait donc les coordonnées très précises de ces mines, mais c'était dans un système qui a changé depuis. Donc voilà, il a fallu donc retrouver ces coordonnées, ensuite les convertir dans le système qui nous a permis de les cartographier aujourd'hui avec les outils actuels.
Est-ce que sur l'histoire du Mont Blanc, puisque c'est une autre histoire de conflit entre la France et l'Italie, est-ce qu'il existe une carte qui tranche le différent ? Est-ce que le Mont Blanc est franco-italien ou bien est-ce qu'il est que français ? Je crois que c'est en ces termes que ça se pose.
Oui, sur le Mont Blanc, oui. En l'occurrence, on était plus sur des enjeux justement de clarté parce qu'il y avait eu des multiplicités de petits bouts de frontières qui passaient d'un côté ou de l'autre. Et donc, représenter clairement à quel pays ils appartenaient était un vrai enjeu cartographique.
Il y a aussi, alors oui, donc là oui. Sur cette question, Olivier Marchand, oui. on a une vérité historique
sur le Mont Blanc.
Le Mont Blanc, ouais.
Ah non, surtout pas. Je vais pas prendre parti. Je vais mettre plein de monde sur le dos.
Vous voulez pas mettre à l'eau vos vacances en Italie?
C'est ça. Non, mais voilà. Non, pour revenir un petit peu sur ce conflit, c'est un bien grand mot, mais les Français sont pas très partageurs. Ils estiment que le Mont Blanc est intégralement sur leur territoire. Normal, question de prestige national. Le toit de l'Europe doit être en France. Blablabla. Je vous fais pas un dessin. Les Italiens sont plus partageurs. Ils estiment que la frontière passe au sommet. Bon, voilà, on en est là, et c'est pas résolu depuis 1860. Bon, si vous allez sur les cartes un peu partout, Google Earth ne prend pas parti, personne ne prend parti. Aujourd'hui, ça n'est pas résolu entre les deux gouvernements. Il y a eu des tentatives, on en est là encore. Mais ça pose pas énormément de problèmes, parce que déjà, personne n'habite là-haut. La seule chose à régler sur place, c'est d'évacuer les gens qui se cassent des jambes en allant essayer de monter le Mont Blanc.
Et comme donc la coopération, on sait pas quoi, concrètement,
comme
on
la
sait
coopération
pas.
Entre les services de secours est très
dire.
Bonne,
on sait pas dire.
Revendique
quoi.
Sait pas dire.
Voilà,
on sait
pas dire. Voilà.
Lucien, qui habite en Haute-Savoie, nous dit « Je pense que ce sont les Italiens qui ont raison, mais vous ne trancherez pas ce différent aujourd'hui. » Vous avez aussi, il nous reste moins de 2 minutes, vous avez aussi étudié les frontières à l'intérieur de nos départements et de nos communes. Je le disais, Clara De Alberto, mais ça veut dire vous avez listé toutes les communes de France pour savoir celles qui étaient en plusieurs morceaux ?
En fait, on a utilisé des outils de cartographie tout à fait pour lister toutes les communes qui étaient en plusieurs morceaux. Il a fallu ensuite éliminer celles où c'était par exemple des petites îles qui pouvaient faire qu'il y ait plusieurs morceaux et oui. Ça nous a permis d'arriver
littorale, à... Il y a une île, bon.
Voilà.
Mais une fois qu'on enlève ça, il en reste beaucoup ?
Bah, il en reste quand même pas mal, ça fait
un beau paquet,
une jolie liste que nous avons fournie à Olivier.
Je les ai regardées une par une sur internet pour savoir quelle était leur forme.
C'est ça, on a sélectionné
quelques-unes que je trouvais intéressantes.
La commune de Plaintel dans les Côtes d'Armor est divisée en quatre parties.
Oui, quatre parties.
Par exemple. Mais on sait pourquoi elles sont coupées en plusieurs morceaux, ces communes.
Je me suis renseigné auprès de Plaintel, je n'ai jamais eu de réponse, donc je ne sais pas. Du coup, je n'en parle pas beaucoup dans mon livre, mais c'est effectivement la recordman du nombre de morceaux de la partition.
On a la classification et on a aussi les départements qui sont en plusieurs morceaux. Il y a par exemple ces trois villages du Nord qu'on trouve dans le Pas-de-Calais.
Tout à fait.
Est-ce qu'on sait pourquoi, là encore ?
Alors, oui, c'est, on va dire, une erreur de cadastre. C'est-à-dire, à la Révolution, quand on a créé les départements, on était persuadé que ces trois villages, je crois qu'il y a Meuvres, j'ai oublié le nom, bref, il y a trois villages comme ça, on était persuadé qu'il y avait une continuité territoriale entre le Pas-de-Calais et le Nord. Et puis finalement, lorsqu'on a rendu le relevé du cadastre obligatoire, ça c'est sous Napoléon, on s'est aperçu qu'en fait, non, il n'y avait pas de continuité entre ces trois communes et le territoire principal du Pas-de-Calais, et on a conservé l'enclave. Voilà.
Mais ça veut dire que quand le préfet du Nord prend un arrêté, dans ces communes, il se passe des choses différentes que dans les communes à côté du Pas-de-Calais.
Oui, il y a eu des cas comme ça, je crois, pendant le Covid.
Ah oui, confinement, est-ce qu'on a le droit de sortir ou pas ? Et ça donne des situations un peu ubuesques. Oui. Et vous comprenez pourquoi, à la lecture de ce livre, Frontières bizarres de la France, Olivier Marchon, Clara De Alberto et Jules Grandin pour les cartes. C'est aux éditions Atlas. Autrement, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
13h45
sur Inter. Une semaine dans leur vie. Notre feuilleton, nous sommes avec les Espagnols de France depuis lundi. Ces descendants des Espagnols arrivés en 1939, fuyant les armées de Franco, ils peuvent désormais demander la nationalité espagnole. 1 300 000 personnes l'ont d'ailleurs fait cette demande dans le monde. Et c'est ce qu'a fait Lucie Villamajo. Elle a 78 ans aujourd'hui, elle vit à Bages, au sud de Perpignan. Son père a dû quitter la Catalogne à la fin des années 30 et il lui a légué la boîte avec laquelle il a traversé les Pyrénées.
J'ai sorti ça toute la peau parce que cette boîte, c'est vraiment quelque chose de précieux. C'est une boîte qui a été sculptée par mon père pendant son parcours durant la guerre, ici, Fechas Memoriales de la Revolución y la Guerra Española. Et ça, c'est ma première poupée. Mes parents n'avaient pas de moyens, donc mon père avait fabriqué ça. Ce sont des souvenirs importants pour moi. Je m'appelle Lucie Villamajo, j'ai 78 ans. Alors, mon père était un catalan de près de Lérida. Très jeune, il avait, je crois, 19 ans quand la guerre a éclaté. Il est parti s'engager dans les colonnes de Durruti. C'était donc un anarchiste. Et il s'est retrouvé à Vernet de l'Ariège en 39 avec tous les soldats de la colonne qui ont fui Franco à ce moment-là. Il y a un poème qui me touche vraiment beaucoup, c'est celui d'Antonio Machado, Los Caminos. Ça rappelle bien sûr le chemin qu'ils ont tous fait. Hein. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre el mar. Ma mère, elle, est partie du côté de Alcañiz, c'est près de Saragosse, en mars 38. Elle est arrivée en février 39. J'ai réalisé qu'il y a eu un périple qui a duré presque un an où elle a marché avec ses parents, son père et sa mère qui étaient déjà très âgés, pour arriver jusque-là. Elle est arrivée par le Pertus. On a vécu ce côté indésirable d'Espagnol en France et en particulier, moi, je l'ai vécu au niveau de ma scolarité. La directrice avait estimé que comme j'étais fille d'Espagnol républicain, je n'avais pas continué mes études et donc elle avait refusé de faire mon dossier pour que je rentre en sixième. Vous voyez jusqu'où ça pouvait aller quand même à l'époque. J'avais une revanche à prendre sur la vie et sur la société française, hein, ça c'est clair. Quand j'ai fait ma démarche auprès du consulat, on m'a dit ça y est, hein, t'es espagnole, sois rassurée. J'ai vu une file d'attente depuis l'avenue jusqu'au consulat. La rue était absolument pleine de gens qui attendaient depuis le matin très tôt à l'aube. Et ça a duré pendant des jours et des jours. Jusqu'au dernier jour, ça a été ça. Je ne m'attendais pas à voir autant de personnes. C'était impressionnant. Et puis des jeunes, beaucoup de jeunes. Et ça, c'est extraordinaire. Pour nos parents, c'est un juste retour. No hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Antonio Machado, 1875-1939. Et j'ai toujours dit, mes parents ont eu le courage à ce moment-là de tout quitter. Mais s'ils étaient restés en Espagne, ils seraient morts aujourd'hui. Et donc, ça a été très dur pour eux, certainement. Mais grâce à eux, il y a 4 générations derrière qui sont en vie. Et ça, c'est extraordinaire.
Une semaine dans leur vie, signée Cécilia Arbona, réalisation Vincent Godard. Suite et fin demain.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le jeudi 13h49, la France à table, avec Marilus Ribaud du journal Sud-Ouest. Marilus, vous nous parlez du chou-fleur, l'heure est grave.
Elle l'est suffisamment pour que la grande distribution appelle à la mobilisation générale. Sous l'impulsion de Karine Lemarchand, l'animatrice de L'Amour est dans le Pré, 5 enseignes de supermarchés appellent à consommer plus de chou-fleur pour sauver la filière. Sur notre antenne mardi, Michel-Édouard Leclerc s'engageait même à le vendre à prix coûtant. Alors Jérôme, pourquoi se mobiliser ? D'abord parce que les cultivateurs, pour l'essentiel basés en Bretagne, font face à une crise de surproduction sans précédent. Mais aussi parce que le chou-fleur, cette œuvre d'art de la nature, adorée par des peintres comme Renoir ou Dali, est aujourd'hui injustement boudée.
Alors commençons par la crise, quelles en sont les causes ?
Elle est pour partie conjoncturelle. Marc Kerangeven est président de la marque Prince de Bretagne, qui rassemble 1300 producteurs de légumes basés dans les Côtes d'Armor, le Finistère et l'Ille-et-Vilaine. Il confiait récemment sur Easy Braise Isel qu'en raison de températures trop clémentes, deux fois plus élevées que la normale, la récolte est avancée de plusieurs semaines. Si encore il ne faisait chaud qu'en France, mais les récoltes se poursuivent chez notre voisin allemand et dans le nord de l'Europe, ces pays qui importent habituellement nos choux à cette période de l'année. Résultat, les exportations du surplus breton sont enrayées. Cette surabondance fait plonger la filière. Une tête qui se négocie généralement autour de 90 centimes se vend actuellement entre 30 et 40 centimes d'euros en dessous du coût de production. Les petits exploitants qui misent notamment sur la vente directe s'en sortent un peu mieux. Nicolas Quillec, 30 ans, vient de reprendre l'exploitation familiale à Plougoulm dans le Nord Finistère. Il produit 35 000 choux-fleurs bio par an et parvient en ce moment à les écouler à 60 centimes d'euros. Il y a un manque à gagner, c'est sûr, mais moins douloureux que chez certains de ses collègues.
Il faut dire aussi, Marilus, que le chou-fleur souffre de désamour.
Notamment auprès des jeunes, les courbes montrent que ce sont d'abord les plus de 50 ans qui le consomment. Plus grave, même si la France demeure le premier producteur européen, avec 110 000 tonnes par an, les surfaces cultivées diminuent année après année. Elles sont passées de 16 746 hectares en 2017 à 13 113 en 2024. Nicolas Conraud, chef étoilé de la Butte à Pluyder dans le Finistère, n'en revient pas qu'on puisse bouder ce légume. Il décèle même chez ses détracteurs une petite flemme à le débarrasser de ses feuilles, alors qu'il cuit rapidement, qu'on peut le cuisiner de mille façons et que son goût est délicieux. Le secret est de ne pas le surcuire pour éviter les odeurs aigres, nous dit-il, et d'oublier aussi le souvenir du chou-fleur de la cantine, mal égoutté oui. Ou baignant dans la sauce béchamel.
Je vous confirme. Donc, Nicolas Conraud nous propose d'en faire un plat de fête.
Pour le sauver, mangeons donc du chou-fleur avec cette belle recette de velouté. Faites chauffer 1 litre de lait de vache ou d'amande. Plongez d'abord le tronc du chou-fleur et un peu plus tard les fleurs. Le tout doit cuire en 12 petites minutes. Vérifiez que votre couteau transperce les morceaux. Mixez l'ensemble et passez au chinois pour ôter les fibres. Ajoutez un peu de crème fleurette. Faites chauffer 100 g de beurre pour qu'il devienne noisette. Préparez les assiettes avec le velouté, un trait de ce beurre, des éclats de noisettes torréfiés. Autre option, faites infuser de la cardamome dans le potage et posez au dernier moment des suprêmes de citron ou de clémentine. Un calcul rapide, Jérôme. Cette recette vous coûtera pour 6 personnes 8,30 €. Ça ne vous donne pas envie de manger du chou-fleur à Noël ?
Ah oui, carrément, et à un prix imbattable. Merci Marilus Ribaud, chaque jeudi dans ce 13-14 de C'est la France. Ah, c'est une chanson, c'est l'humoriste Marion Mézadorian que l'on retrouve aujourd'hui à votre micro, Frédéric Pommier.
Marion Mézadorian qui joue actuellement son spectacle Craquage au Théâtre de la Pépinière à Paris. Et c'est un morceau de Laurie Darmon qu'elle a souhaité que l'on écoute. La chanson s'appelle L'Exil.
Ça parle d'une grand-mère qui montre les photos de sa vie à sa petite-fille. Et puis la petite-fille se rend compte qu'il y a plein de choses que sa grand-mère ne dira jamais. Elle a les yeux qui brillent. Et donc ça parle d'une vie entière. Et moi, à ce moment-là, bah, je suis enceinte. Je suis enceinte de peut-être 2 mois. Alors je sais qu'on parle des hormones, mais au-delà de ça, ça m'a beaucoup percutée. Et puis j'ai pensé à ma grand-mère, à mes grand-mères qui ont vécu l'exil.
De l'Italie d'un côté et de l'Arménie de l'autre.
Oui, exactement.
Et ce sont des grand-mères qui sont toujours de ce monde ?
Alors, ma grand-mère sicilienne, non. Moi, j'ai perdu cette grand-mère sicilienne, j'avais 8 ans, mais ma grand-mère arménienne est toujours de ce monde. Et effectivement, elle a quitté l'endroit où elle est née à l'âge de ses 7-8 ans. On l'a un peu arrachée à cette terre-là. Et la semaine dernière, 80 ans plus tard, mon père l'a ramenée dans ce village où elle est née. Elle m'a montré toutes les photos d'antan et mon père a repris les photos d'elle dans le même endroit où ils ont retrouvé l'immeuble. Donc la boucle était bouclée et ma grand-mère me dit aujourd'hui « C'est bon, je peux partir. » Ça fait quelque chose quand on l'entend. Elle me dit « C'est bon, je revois tout, je revois ma mère, je revois mon enfance, j'avais besoin de ça, ça y est, c'est bon. » Ah, j'ai des frissons. C'est terrible, voilà.
De quel Orient nous parle-t-elle ? La jolie dame au souvenir, quand elle raconte sa jeunesse sur le vieux port d'Alexandrie, elle était une jeune fille sage, tandis que ses amis dansaient à chaque bal sur chaque plage, où tout ensemble elle se rendait.
C'est en 2023 qu'est sortie, Frédéric, cette chanson de Laurie Darmon.
Oui, sur son album La Traversée du Désir. Et quand elle l'a découverte, Marion Mézadorian en a donc été bouleversée.
C'est vrai que quand j'ai entendu cette chanson qui parle d'exil, je suis tombée des nues, je me suis mise à pleurer instantanément. Je connais que peu la chanteuse d'ailleurs, mais le texte m'a frappée en plein cœur et c'était comme un mini court-métrage. C'était le film de mes grands-mères, les deux, qui ont dû tout quitter à chaque fois, se reconstruire avec des enfants, s'intégrer, faire du mieux qu'on peut, le plus rapidement possible, ne pas faire de vagues. Et sans essayer d'oublier les siens, mais en se taisant, en essayant de ne pas faire trop de bruit.
D'avoir ces deux grands-mères qui viennent d'ailleurs, qu'est-ce que ça vous a apporté comme richesse ?
Je pense que ça m'a ouvert sur l'acceptation de l'autre, et évidemment. Je ne peux pas dire que quelqu'un qui est différent de moi est un étranger. C'est pas possible. Quand je vois mes origines et la mixité dont je suis issue, alors je suis une étrangère à moi-même. Enfin, ça n'a pas de sens.
C'est à jamais là-bas que dort la paix dont elle se nourrit.
Et le fait que vos grands-mères soient des exilées, qu'elles aient vécu ce déchirement-là, est-ce que vous pensez que vous le portez, vous aussi ?
Oui, typiquement dans mon quotidien, j'ai très peu de choses chez moi. Je me dis qu'il faut pouvoir partir à chaque seconde avec très peu de choses.
Très peu de meubles, très peu de vêtements.
Je ne m'attache pas aux objets. Une douleur en moins. Le jour où il va falloir partir en courant. J'ai ça.
Mais vous pensez de temps en temps que peut-être vous allez devoir partir en courant ?
Oui. Malheureusement, oui.
De quel Orient nous parle-t-elle ? La jolie dame au souvenir,
la jolie dame au souvenir,
qui a dû pardonner au ciel de la forcer à reconstruire loin sur un autre continent.
Votre enfant a 3 ans aujourd'hui.
Oui.
Vous lui parlez souvent de vos grands-mères ?
Alors, je ne lui ai jamais parlé de ma grand-mère italienne, qui est partie quand j'étais très jeune. Et puis ma grand-mère arménienne, qui est son arrière-grand-mère et son unique arrière-grand-parent. Du coup, il la connaît et je tiens à ce qu'il la voie. Et je lui ai donné d'ailleurs mon nom de famille. Il a le nom de famille de son père et je tenais à ce qu'il l'ait aussi.
Ce nom de famille arménien.
Oui.
Heureuse, son accent comme un cri témoigne au temps qui passe qu'aucun de ses vestiges ne quittera son âme. Sa nostalgie m'enseigne qu'il n'est pas une frontière, l'exil.
L'exil, Laurie Darmon, c'était donc Frédéric, le choix de l'humoriste Marion Mézadorian.
Marion Mézadorian, que vous pourrez retrouver jusqu'au 30 décembre avec son spectacle Craquage au Théâtre de la Pépinière à Paris.